Père, Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils, Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur, qu'on s'approche, Seigneur, du trône de la grâce. Mais Seigneur, on le sait que cette marche dans cette vie n'est pas facile. On parle avec expérience, il y a toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations pour nous accabler. Pas juste de ce qu'on vit, mais aussi de ce que nos enfants peuvent vivre, ou que nos amis, nos parents peuvent vivre, puis ça nous affecte. Je te demande que ton esprit puisse prendre nos vies ce matin, qu'on puisse comme tout te remettre à tes pieds.
Amen.
Que ce soit nos fardeaux, que ce soit nos maladies, on remet tout à tes pieds, Seigneur, ce matin. Puis on te fait confiance que tu as un plan pour notre vie.
Amen.
Puis on veut croire, Seigneur, que tu as aussi un secours pour celui qui est dans la détresse. Puis on remet tout à tes pieds, Seigneur, on s'attend de toi. Que tu enlèves tous ces soucis-là, ces inquiétudes-là, on te les dépose à tes pieds, c'est maintenant tes problèmes et non plus les miens. Puis on veut croire à ton secours. Qu'il n'y a rien qui nous empêche d'entrer à l'écoute de ta parole, Seigneur, ce matin, pour entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église, pour entendre ce qui sort de ta parole, pour nous enseigner, pour nous conduire, parce que c'est notre lumière. Je te remercie de ce que tu as fait au milieu de nous ce matin, dans le nom de ton Fils. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On a commencé une étude la semaine passée. Le titre du message la semaine passée, c'était « Le jugement de Dieu sur les impudiques et les adultères ». On continue aujourd'hui sur un peu dans le même sujet. On ne parlera pas nécessairement des mêmes choses, mais on va comprendre. Aujourd'hui, le titre, c'est « Comprendre ce que Dieu appelle impudicité et adultère ». On a vu certains détails la semaine passée avec l'exemple, surtout dans les Proverbes, qui nous parle de l'homme qui arrive sur des situations où une femme de mise d'une prostituée qui se présente à lui, puis que là, il est comme tenté d'aller vers elle, puis que ça, c'est des situations dans notre vie qu'il faut apprendre à prévoir et à combattre. Parce que Dieu a déjà décrété qu'il jugera les impudiques et les adultères. On a vu que Dieu a déjà jugé ces choses-là, c'est des choses qui sont décrétées. Dieu ne prend aucunement plaisir dans ces choses-là. Puis on a vu que l'impudicité, c'était le même mot qu'il nous donne aujourd'hui en français, prostitution. Quand on parle de prostitution, c'est toutes sortes de formes de sexualité en dehors des liens du mariage. Puis quand on parle d'adultère, mais là c'est au niveau de l'infidélité dans le mariage. Aujourd'hui, dans le sujet qu'on va développer, c'est pour comprendre plus profondément c'est quoi que la Bible appelle impudicité et adultère? On est rendu dans l'an 2011, puis aujourd'hui, à l'an 2011, c'est comme si on écoute l'ensemble des églises qui prêchent aujourd'hui, qui vivent des choses aujourd'hui, c'est comme si l'Évangile aurait évolué, puis que les gens sont rentrés dans une dimension qu'il n'y a plus rien de grave parce que tout est accompli. Jésus a tout accompli, puis on est sauvé par la foi en Jésus, puis que c'est plus grave de pratiquer n'importe quoi, là, que tout ce que Dieu aurait déclaré il y a 2000 ans comme choses qu'il haïssait, des choses qu'il prend point plaisir, des choses qu'il a dit qu'il jugerait ces choses-là. C'est comme si aujourd'hui, on a tossé la parole de Dieu, puis on essaye de tordre les versets pour essayer de se fitter une nouvelle idée. Comme quoi que Dieu, par amour, aurait quand même accepté tout ce qu'il aimait pas il y a 2000 ans. Je vais vous dire, pas parce que c'est moi qui l'ai inventé, c'est Jésus qui l'a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que tout cela n'arrive. Il y a une autre place qui nous dit « La parole du Seigneur demeure éternellement. » Il y a une autre place qui nous dit « Les gens, à la fin, vont être jugés d'après mes paroles. » Fait que les jugements, les choses décrétées dans la parole de Dieu n'ont pas changé, puis ça demeure. Puis il est important, c'est sûr qu'on a des choses qu'on vit, on a des situations bien compliquées des fois, puis on essaiera d'avoir comme des pauses droits, puis de dire, ben moi, c'est pas si grave que ça si je suis à côté, ou moi, c'est pas si grave que ça si, tu sais, parce que je l'aime, puis l'autre qui va décider de se marier avec, bientôt, là, avec la loi, là, de se marier avec plusieurs femmes, puis là, de se marier avec des entre gays, homosexuels, puis on va se marier aussi bientôt, là, si on aime notre enfant, il n'y a rien qui nous empêche qu'on marie notre fille, on l'aime, puis qu'est-ce qui nous dit que ça ne développera pas, on va marier notre chat ou notre chien, on l'aime. Puis le sens du mariage, puis de tout ce qui est pas de Dieu dans ce mariage-là, faut le discerner pour comprendre c'est quoi que Dieu veut, puis comment c'est quoi le cadre, puis qu'on persévère dans ce cadre-là, parce que sinon, on peut modifier ça, puis se marier avec n'importe qui, avec n'importe, de n'importe quelle façon, puis s'il n'y a rien de grave, on est marié, en parenthèse. Faut apprendre c'est quoi que la Bible dit, si du moins on a l'intention de vouloir mettre en pratique ce que Jésus a dit, ben c'est sûr qu'il y en a qui vivent des religions chrétiennes, puis ils veulent un sauveur, mais ils veulent pas un Seigneur. Ils veulent appeler Jésus Seigneur, Seigneur, et ils ne veulent pas faire ce que Jésus dit. Puis c'est ça que Jésus a dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Ça, c'est une phrase de Jésus dans Matthieu 7. Si vraiment on s'est converti, c'est parce qu'on voulait appliquer la parole de Dieu. Il faut rentrer dans l'obéissance. Il ne faut pas prendre ces principes-là à la légère. Puis s'il y a des choses qui sont trop compliquées, mais il faut consulter des pasteurs. Allez voir votre pasteur. S'il y a des choses dans ce que je vais vous déclarer aujourd'hui et vous ne comprenez pas, allez voir votre pasteur. Puis arrêtez-vous pas juste à un pasteur. Allez voir deux, trois, quatre pasteurs pour bien cerner les explications. Parce qu'aujourd'hui, même des pasteurs, il y a des pasteurs qui marient des homosexuels. Il y a des pasteurs qui font des remariages. Il y a des pasteurs qui sont eux-mêmes des remariés ou des mariés à deux, trois femmes, puis ils sont dans le ministère, puis ils ne voient plus qu'ils regardent quoi là. Pourtant, la Bible est à clair sur des sujets qu'un pasteur devait être marié d'une seule femme. Mais il y a des principes, c'est comme si on les tasse toutes, on a évolué, la chrétienté a évolué, puis c'est pas obligatoire. Moi, je veux suivre ce qui est écrit là. Aujourd'hui, on va voir plein de versets qui vont nous faire comprendre plus en profondeur l'impudicité et l'adultère. C'est important que je le comprenne si je ne veux pas tomber puis être déclaré par Dieu que je suis un impudique ou un adultère. Parce qu'il y a déjà des jugements donnés dans ces situations-là. D'où vient la pratique de l'impudicité des adultères? C'est la première question qu'on va répondre, puis c'est Jésus qui a donné la réponse. Marc 7, 21. D'où vient la pratique de l'impudicité des adultères? Jésus nous donne la réponse dans Marc 7, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Là, on est en train de voir où ce que vient le péché. Ça ne nous dit pas le péché vient du diable. Ça nous dit encore moins que le péché vient de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont certains raisonnements. Ils se disent, « Oh, mais Dieu m'a créé comme ça. Donc, Dieu voulait que je sois comme ça. » Fait que la personne, ça a été gay. Dieu m'a créé comme ça, donc Dieu voulait que je sois gay. Puis donc, c'est correct d'être gay et c'est correct de se marier entre gays. Mais si on part avec ce raisonnement-là, d'où viennent tous les dérèglements et les mauvaises choses? Ça vient de l'homme. Ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça vient de l'homme. Pourquoi qu'on trouvera ça étonnant que ça vienne de l'homme? Pourtant, qu'est-ce qui s'est produit quand Adam et Ève ont écouté l'ennemi. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour qu'eux-mêmes soient capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les hommes voulaient être capables de décider par eux-mêmes de choisir le bien et le mal. D'après moi, ça c'est bien. D'après moi, ça c'est mal. Mais ça, cette idée-là, c'était pas dans la création au début. C'est rentré dans la création suite à prendre le fruit qui rouvrait l'intelligence du bien et du mal. Qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené une déchéance, une mort spirituelle, puis la mort physique sur l'ensemble de l'humanité. Tous sont nés enfants d'Adam et Ève, dans une nature déchue, une nature qui discerne le bien et le mal, puis qu'on, d'après nous autres, ça semble bien, puis d'après nous autres, ça semble mal, mais on consulte pas Dieu, là, on y va d'après notre opinion. Puis on croit qu'une opinion est valable dans cette vie, on croit que notre opinion est bonne, puis que notre voie est juste. Pourtant, la Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Qui a déclaré ça? C'est Dieu. Pourquoi Dieu a déclaré ça? Parce qu'il voulait que les humains arrêtent de se fier à leur idée, puis commencent à se soumettre à l'idée de Dieu, qu'on commence à croire Dieu. Quand Adam et Ève ont désobéi et qu'ils n'ont pris, c'est parce qu'ils n'ont pas cru Dieu. Dieu leur avait dit, touche pas à ça, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Mais eux autres, ils n'ont pas cru. Mais il se passe encore la même chose aujourd'hui. Le monde marche selon leur idée, leur pensée, puis selon ce qu'eux autres pensent qui est juste, sans se soucier. Dieu, as-tu dit que c'était juste? Si Dieu a déclaré qu'une chose était injuste, v'là 2000 ans, elle l'est encore aujourd'hui. Le rien qui a changé dans sa parole, puis le Dieu demeure éternellement. Il n'y a ni ombre ni changement dans sa personne à Dieu. Ce que Dieu haïssait v'là 2000 ans, il la lit encore aujourd'hui. Puis d'où vient toute la méchanceté qu'on voit dans ce monde? Ça vient du cœur des hommes, du cœur mauvais des hommes. Du cœur des hommes qui ont décidé de rejeter la parole de Dieu et de se fier à leurs propres idées. Sommes-nous justifiés devant Dieu à cause qu'on marche? Ah ben moi, je t'assure que c'était correct. Non. Savez-vous que dans la loi des hommes, la loi civile puis la loi criminelle, il y a une déclaration qui dit « L'ignorance de la loi n'est pas une excuse. » T'as beau dire « Je le savais pas », c'est pas une excuse. Si c'est une zone de 70, puis tu passes à 90 avec ton automobile, la police, elle te demande pas, tu savais-tu que c'était à 70? Non, elle te le demande pas. Elle va te dire, tu roulais à 90, tu as ta contravention. Mais Dieu, c'est la même chose. Peut-on dire, oh, on le savait pas? Pourtant, la Bible est accessible quasiment sur la surface de la terre entière, presque dans toutes les langues, dans toutes les cultures, nous pouvons trouver la parole de Dieu. Pratiquement, je ne dis pas qu'il y en a partout, mais il y a des gens qui travaillent à la rentrée partout, à la traduire dans toutes les langues, afin que s'accomplisse que la bonne nouvelle doit annoncer à toutes les nations, alors viendra la fin. Puis un autre passage qui nous dit que dans le ciel, on va trouver des gens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation qui se tiendront devant le trône. Ça veut dire que la bonne nouvelle va s'en voir répandue. Puis aujourd'hui, avec les médias, la radio, la télévision, l'Internet, la parole de Dieu est répandue comme elle ne l'a jamais été. D'où ce que sort toute l'impudicité et les adultères? Ça sort du cœur des hommes. Il dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Tu peux pas dire que c'est la faute de l'autre. Chacun est responsable de sa vie devant Dieu. C'est pour ça que la Bible, elle nous enseigne quoi faire pour éviter que ça se produise. Parce que c'est ça qui est le point, là. On le sait que Dieu n'aime pas l'adultère et l'impudicité. Mais comment faire pour que ça ne soit pas dans ma vie? Bien, il faut étudier la Bible, écouter des enseignements, puis on va trouver toutes les points importants que la Bible enseigne, qu'elle nous dit quoi faire, puis elle nous dit pas quoi faire, afin qu'on comprenne, puis qu'on puisse se sortir de cette situation-là. Le premier point qu'on va voir, que doit contenir nos pensées? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme pensée? Ouais, mais on a des milliards de pensées dans notre vie. C'est vrai. Mais Jésus a dit que c'est de ton cœur, du cœur de l'homme, que sortent les mauvaises pensées. Qu'est-ce que la Bible te dit de faire avec tes pensées? Tu dois prendre garde à tes pensées. On va voir Matthieu 5, 28. Puis là, on va comprendre que qu'est-ce que Dieu veut qu'on a dans nos pensées afin d'éviter l'adultère. Matthieu 5, 28, c'est Jésus qui nous parle. Il dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ouch! Dans l'autre verset, j'ai dit, « C'est du cœur de l'homme que sortent les adultères et les impudicités. » Là, Jésus rajoute, « Chaque fois qu'un homme ou une femme regarde une autre personne avec des convoitises, avec des désirs sexuels, il est déjà en adultère. » Qu'est-ce que je dois comprendre d'un verset semblable? Dieu nous demande de veiller sur nos pensées. Il dit que c'est de ton cœur que va sortir les mauvaises pensées. Puis il dit, ça commence là, là au cœur de ton cœur, là, au centre de ta pensée. Faut que tu évites de penser des pensées de convoitise, puis de désirer sexuellement un autre partenaire, une partenaire ou un autre partenaire, si dans le cas que tu es déjà marié. Faut que tu évites de réfléchir à cela, sinon tu es déjà un adultère. Wow! On a de l'ouvrage. Il y en a que c'est pour eux autres, la sexualité ne les affecte pas du tout. Il y en a qu'ils sont eunuques. C'est ça que la Bible a dit. Il y en a qui sont eunuques pour le royaume de Dieu. Puis, comme mon frère me le dit devant moi, il n'y en a pas gros. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de naturel que Dieu crée. C'était très beau quand il a créé ça, en autant que c'est pratiqué dans le cadre des bonnes affaires, la bonne manière. Il est interdit, si on parabole cette phrase-là, il est interdit aux personnes de méditer sexuellement sur une autre personne qui n'est pas ta femme. C'est ça que ça parabole, la phrase. Nous devons veiller sur nos pensées. Faut veiller sur nos yeux, sur qu'est-ce qu'ils voient, pour pas être alimenté dans nos pensées. Comment est-ce qu'une personne peut éviter de penser adultère si elle écoute, si elle regarde des revues porno? Comment est-ce qu'une personne peut s'éloigner de toute pensée adultère si elle regarde des films avec la sexualité? Comment qu'une personne peut fuir toutes ces choses si elle se tient dans un bar de danseuse? Comment qu'une personne peut ne pas réfléchir à tout cela s'il se tient dans un camp de nudistes? La Bible est en train de nous dire l'adultère commence là. Elle commence pas quand tu as couché avec la personne, elle commence quand tu as médité de coucher avec la personne. Tu sais, comme qui dit, un meurtre prémédité, il y a des meurtres qui arrivent sans que la personne n'ait eu le temps d'y penser, ils ont commis un meurtre. Mais là, la société, ils ont dit, si une personne a réfléchi d'avance à son crime, puis elle l'applique, son crime, c'est encore pire. Que moi, je me promène en auto, puis sans faire exprès, je heurte une personne parce qu'elle s'est jetée devant moi. J'ai tué une personne, mais j'ai pas fait exprès de la tuer. Mais si j'avais déjà médité à décider de tuer cette personne-là, puis je pense à comment est-ce que je vais y arriver, Mon meurtre a déjà commencé quand j'ai commencé à méditer. C'est ça qu'il dit, les meurtres, au verset Marc 7, 21, il dit, les adultères, les impudités, les meurtres, ils viennent de la pensée, dans Matthieu 7, 21. C'est à penser d'avance, puis c'est décrété que c'est un meurtre prémédité, ça sort de la tête. Frères et sœurs, tout croyant doit veiller sur ses pensées. Tout croyant doit faire attention à ce qu'il pense, pas laisser rentrer rien qui est condamné par la parole de Dieu. Philippiens 4:8 nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Philippiens 4:8. Tu veux fuir tes occasions de chute? Tu veux apprendre à combattre contre tes occasions de chute? Commence par faire le ménage dans tes pensées. Arrête de méditer, arrête de regarder des choses qui te nourrissent ton péché, puis arrête de réfléchir à ton péché. Tu vas déjà avoir 90% de la victoire dans ta vie. Parce que quand tu pratiques un péché, c'est parce que c'est déjà prémédité dans ton esprit. Commence par arrêter de penser à tout ce qui est corrompu, puis le reste va se purifier. C'est ce que Jésus a dit aux Juifs religieux. Il dit, vous nettoyez ce qui est le dehors du plat, mais au-dedans, c'est plein de rapines et de méchanceté. Il dit, hypocrite, commencez à faire le ménage au-dedans, puis le reste va devenir pur. Commencez à arrêter de penser à toutes aux corruptions que Dieu n'aime pas, puis vous allez avoir déjà 95% de la victoire. Le reste de ton élan corporel, charnel, va mourir par l'Esprit de Dieu. Mais si on le nourrit, puis on le nourrit, puis on le nourrit, il est activé, il est activé, il est activé. Puis on s'en sort pas. Faut commencer par arrêter de penser aux convoitises. Là, on parle dans le sujet de l'impudicité et de l'adultère, mais il y avait aussi les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude. Même la fraude, le gars, il a réfléchi à la fraude, comment frauder le gouvernement, comment travailler en dessous de la table, puis se faire plus de gains. Puis, tu sais, tout, ça sort de nos pensées en premier. Quand on dit, moi, il n'y a aucunement question que je touche à ça, puis on n'accepte même pas d'y réfléchir, il n'y a pas grand... comment guillemets, chance que tu tombes là-dedans si tu fais le ménage dans tes pensées. Mais c'est pas une chance, c'est c'est conséquence. Si tu fais le ménage dans tes pensées, il n'y aura pas grand conséquence d'arriver à faire la chose. C'est un peu ça que je veux dire. Pensez-vous que, quand il nous dit que ça s'assoit vrai, honorable, vertueux, juste, aimable, vertueux, digne de nos louanges, soit l'objet de nos pensées, pensez-vous que c'est juste parce que Dieu veut qu'on apprenne à combattre, puis qu'il faut que je fasse le ménage dans nos pensées pour réussir à combattre? Non! C'est pas juste pour cette raison-là que je dois le faire, c'est parce que Dieu voit toutes mes pensées. C'est pour cette raison-là, en premier, que je dois faire le ménage de mes pensées. Puis pensez-vous qu'à cause que j'ai pensé à quelque chose à la cachette, puis que je ne l'ai pas dit à personne, pensez-vous qu'on est juste devant Dieu quand on médite le mal? Pensez-vous que ça ne sera jamais connu? Que personne ne va savoir jamais que j'ai pensé à cela? Non. Tout va être dévoilé, même nos pensées. Hébreux 4:12 nous le dit. Car la parole de Dieu, la Bible, est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme puis l'esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a déjà des jugements décrétés dans la parole de Dieu sur les sentiments et sur les pensées. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout était nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Personne n'est caché devant Dieu. Toute créature est à nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Puis la Bible a déjà donné des jugements au niveau des pensées. Fait que le fait que j'arrête de penser aux corruptions, c'est pas juste pour avoir la victoire dans ma vie, c'est parce que premièrement, Dieu les voit toutes mes pensées. Puis je vais avoir à rendre compte à Dieu de mes pensées. Vous voulez la victoire dans votre vie? Ça commence là. Une crainte de l'Éternel qui nous amène à faire attention à ce qu'on pense. Je continue. Deuxième point. Si on fait le ménage dans nos pensées, il ne faut pas l'oublier. Que doit contenir nos paroles, notre bouche? Éphésiens 5, 3. Là, on est toujours dans le cadre de l'impudicité et de l'adultère. Ça nous dit dans Éphésiens 5, verset 3, que l'impudicité, ça veut dire que les choses sexuelles en dehors du mariage, Dieu appelle ça de la prostitution, que toute forme de prostitution, qu'aucune espèce d'impureté, la cupidité, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Dieu nous dit dans ce verset-là qu'un saint, c'est qui ça les saints? Les croyants, ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. On a été consacrés, saint veut dire consacrés à Dieu. On est comme sacrés à Dieu. Devant Dieu, on est des gens sacrés. On lui appartient. Puis comme il convient à des gens sacrés, ils doivent même pas mentionner l'impudicité. Ça doit pas être sur les lèvres d'un croyant de prendre à la légère et de faire des jokes avec du sexe. C'est ça que ça nous dit un peu plus loin, verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. C'est contraire à la bienséance, la sainteté que Dieu nous appelle à être. La sanctification, dire qu'on sanctifie, c'est pour nous amener à être plus en plus saints. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, il y a encore un jugement, ces impudiques. C'est aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Là, c'est là qu'il m'a le saut à cette parole dans l'autre verset, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il y en a qui vont vous dire, bon, voyons donc, c'est pas grave, même si tu dirais des jokes sur le sexe. Voyons donc. Faut bien rigoler. Il y a des jokes saines. Des petits jeux de mots sains. Il n'y a aucune affectation à la morale chrétienne ou à la sainteté ou à la pureté. Ça, c'est correct. Mais quand on parle d'impudicité, des choses impures, ou même parler de cupidité, puis là, on n'en parle jamais de ça, mais on est bien fort à l'évangile de la prospérité. Mais le mot cupide, c'est l'amour des biens et de l'argent. Que dans ce verset-là, il appelle ça de l'idolâtrie, on devrait même pas rire de ça. C'est une chose qui est contraire au plan de Dieu. Puis Dieu, il dit que personne ne vous séduise, c'est à cause de ça que la colère de Dieu va venir sur l'ensemble de l'humanité rebelle. Dieu a déjà jugé cela dans sa parole, puis quand que sa colère va être déversée, c'est déjà commencé. Dieu frappe par toutes sortes de sauts puis de trompettes, puis il va avoir les fléaux qui sont les coupes qui accomplissent la colère de Dieu. Ça sera pas drôle, frères et sœurs. Puis nous, il faut être de ceux qui se sont sanctifiés, que ceux qui se sanctifient encore, puis que ceux qui pratiquent la justice, pratiquent encore la justice, puis que ceux qui poursuivent l'impureté, mais continuez dans votre impureté. Mais Dieu nous appelle à se sanctifier. Pour les chrétiens, c'est une marche dans la sainteté. Que devraient être nos actions? Nos pensées, nos paroles, bien, nos actions de tous les jours. On en a parlé la semaine passée, je vais passer ça rapidement, 1 Corinthiens 6, 15. Il dit, ce ne savez-vous pas, au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ça se peut-tu que les chrétiens aillent voir des prostituées? Oui, il y en a des chrétiens qui ont été voir des prostituées à leur honte. Et j'espère qu'ils se sont repentis et qu'ils ont abandonné cette voie qui les conduit à la mort. On en a parlé la semaine passée. Là, verset 16, il dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. » Verset 18, fuyez l'impudicité, fuyez la prostitution, fuyez la débauche. Ça, c'est verset 18. Fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, fuyez. Tu sais, quand j'ai expliqué la semaine passée que la prostituée est venue au devant de la personne, puis là, il est embarqué dans tout son piège, puis là, il a dit plein de paroles pour l'entraîner. Qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Salut, bye! Moi, je me sauve en courant. Pim! Fuyez l'impudicité. Restez pas là. Vous allez tomber. L'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. La même chose quand un gars va visiter, un pasteur va visiter une femme qui est seule pour essayer de la conseiller. Il est mieux d'y aller accompagner. J'ai eu des témoignages de cela, moi, que le pasteur, il est allé voir la personne, puis la personne, ça pourrait tendre un piège. Puis elle voulait des conseils, puis là, elle est en robe de chambre, puis là, il commence par jaser, puis là, la robe de chambre s'ouvre, puis là, la convoitise embarque, puis là, le gars, il a succombé, ou le gars résiste. Fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est un péché, l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La personne qui succombe dans ça, ou qui recherche ces choses-là, d'aller vers des prostituées, recherche ce qui lui fait plaisir. Pourtant, cette personne-là, elle a oublié que son corps ne lui appartient plus. Il appartient au Seigneur. Dieu nous a rachetés. Nous ne sommes plus là pour livrer notre corps au péché. Nous devons fuir le péché. Nous devons rechercher à marcher d'une manière qui plaît au Seigneur. Il faut apprendre à glorifier Dieu avec notre corps. Comment? En s'abstenant de se livrer dans des péchés que notre corps désire. À l'exemple de Joseph, dans l'Ancien Testament, dans Genèse 39, vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous pouvez prendre des notes sur verset 7. Joseph, la femme de son maître lui a dit « couche avec moi » puis elle l'achala tous les jours jusqu'à un moment donné, elle le saisit par son vêtement, puis là tu vas coucher avec moi. Joseph, il a dit « il n'en est pas question que je pêche contre mon maître puis contre mon Dieu ». Il a laissé son compte là, il s'est sauvé en courant. C'est ça, fuir l'impudicité. Fuyez les occasions, fuyez les tentations, fuyez l'attirance sexuelle, même pas dans vos pensées, ni dans vos paroles, ni dans vos actions vers les prostituées ou coucher avec une autre femme.
Hélène.
Si quelqu'un est seul, qui est célibataire, puis qui a des désirs sexuels, qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Mais qu'il prie pour que Dieu lui accorde une femme. C'est ça, ça nous dit, 1 Corinthiens 7-9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, il vaut mieux se marier que de brûler. Si une personne n'est vraiment pas capable, bien célibataire, bien pas capable de se retenir, priez Dieu que Dieu vous donne une femme. Mais le mariage ne règle pas le problème de la sexualité. Parce que ça ne comblera pas nécessairement tous vos désirs. Il faut quand même apprendre à se contrôler, puis apprendre à faire mourir les actions de notre corps. Il faut apprendre à respecter notre conjointe que ça y tente pas. Ça peut arriver que le gars, lui, il vient de se marier, puis il pense que là, tous ses désirs vont être accomplis. Lui en veut 3 fois par jour, puis sa femme en veut 1 fois par mois. Le libido peut être différent, comme ça peut que ça s'accorde tous les deux. Tant mieux, mais sinon, le gars, faut qu'il apprenne à se contrôler. Fait que le mariage ne règle pas nécessairement le problème de la sexualité. Mais l'homme, la femme peut aider le mari, ou vice-versa. Mais il y a des manières de choses naturelles, là, que c'est naturel. Tu as des besoins, c'est naturel. Dieu crée ça. Mais il y a des manières de s'entraider, mais sans forcer le conjoint. Sinon, si tu violes ta femme, c'est un viol. Elle veut pas. T'as beau dire c'est ta femme, mais il faut que les deux soient d'accord. Sinon, tu la forces, c'est un viol. Le mariage ne règle pas le problème de la sexualité, mais ça peut l'aider. Je ne vous cache rien, puis toute la plupart d'entre vous, vous êtes déjà mariés, vous savez de quoi je vous parle. Mais le premier point, il faut apprendre à se maîtriser notre corps, à le garder dans la soumission. Il faut éviter de réfléchir à ces choses-là. Il faut éviter d'en parler, puis il faut arrêter de courir vers ces choses-là. Il faut y aller tout naturellement, comme Dieu nous guidera dans la suite, quand notre corps est soumis à l'Esprit de Dieu. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, puis il a fait une aide qui est semblable à lui, puis les deux marchent dans l'unité pour former un seul corps. Puis les deux, c'est béni de Dieu, puis c'est le plan de Dieu. Puis la reproduction, tout le système de reproduction, de la sexualité, ça fait partie de cela. Et qu'on apprenne à se respecter. Et de ne pas aller ailleurs. C'est pas un cours de sexualité que je veux vous donner, mais quand même, ça fait partie de la vie. On n'entend quasiment jamais là-dessus. Mais ça peut aider beaucoup de personnes, parce qu'il y en a sur Internet qui me posent des questions dans ce sens-là, je donne les réponses que je pense qui sont justes, parce que j'essaie de baser mes réponses sur la parole de Dieu. Quand les gens se satisfaisent personnellement pour se soulager, il n'y a aucun verset qui nous en parle dans le Nouveau Testament. Sauf que ça nous parle que si tu médites à une personne, tu es en adultère dans ton esprit. Fait que s'il y a des gens qui ont des besoins et qui doivent se satisfaire, pensez à rien. Sinon, le péché, il est là. Vous pouvez prier Dieu, puis j'en connais des témoignages de gens qui ont dit « Dieu m'a délivré de me satisfaire personnellement parce qu'il y avait un grand appétit, puis Dieu a fait mourir cela dans son corps. » Mais tant mieux que cette personne-là, elle n'aura plus de désir à satisfaire. Les autres qui n'ont pas été délivrés, même s'ils le demandent à Dieu, Dieu n'a pas toujours délivré automatiquement. Des fois, ça peut être suite à 1 an, 2 ans, 10 ans de prière pour être délivré de l'appétit sexuel. Nous devons apprendre à maîtriser notre corps pour fuir le péché. Nous devons apprendre, en dépendant de Dieu, que Dieu peut nous en délivrer. Puis en attendant qu'il nous délivre, on ne doit pas livrer notre esprit au péché. Si vous pratiquez ces choses-là, pensez à rien. Ou, si vous êtes marié, pensez à votre femme. That's it. Il n'y a pas de mystère là-dedans, c'est juste ça. La Bible n'en parle pas plus. Elle n'en parle pas, mais elle dit, ceux qui y pensent aux femmes, ils sont dans le péché. Ça, c'est, quand je dis aux femmes, c'est au le sexe, puis le masculin, puis le féminin. Ça peut être des femmes qui ont un haut libido, puis l'autre l'a pas. Mais j'explique les choses qui font partie de la vie. Parce que souvent, on a entendu des gens donner des condamnations sur le satisfaire personnellement. Mais si Dieu t'a pas délivré, faut que tu combattes. Mais si tu combats, ça veut pas dire que tu le pratiqueras plus. Puis si tu le pratiques, pêche pas dans tes pensées. Nourris-toi pas de revues puis de films. Pense à rien. C'est un besoin naturel, la sexualité. Mais il y a un cadre que Dieu, au-delà de ce cadre-là, a déjà condamné tout l'ensemble du reste. Je continue. Après ça, on parle au niveau de l'impudicité, puis dans nos actions dans l'impudicité puis l'adultère. Je suis obligé d'aborder le point du remariage. Parce que la Bible en parle du remariage. Puis aujourd'hui, plein de chrétiens sont remariés. Mais il y a des conditions que la Bible nous dit. Il faut les suivre, ces conditions-là. Sinon, c'est déjà décrété par la parole de Dieu qu'il y a des adultères dans le remariage. 1 Corinthiens 7, 39, ça nous dit qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Originalement, Dieu avait déjà décrété « L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Les deux formeront qu'une seule chair. » Puis là, dans Matthieu 19, c'est ce que ça nous dit, au verset 5. « Les deux formeront qu'une seule chair, et ainsi ils sont plus deux, mais qu'ils sont un, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, que Dieu a uni. » En principe, un mariage, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est le plan original de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde a suivi ce plan-là, loin de là. Mais la base, le plan original de Dieu sur le mariage, Dieu voulait unir les deux personnes jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils sont unis jusqu'au bout. 1 Corinthiens 7, 10, Paul nous enseigne sur le mariage. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais c'est le Seigneur qui l'a ordonné, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Encore dans la même pensée, le plan original, c'est que quand quelqu'un a été marié, séparez-vous pas de votre mariage. Continuez à travailler pour votre mariage, pour qu'il soit permanent et jusqu'à la fin. Demandez de l'aide s'il faut. Je sais qu'il y a des exceptions, il y a des maris ou des femmes qui ont été dans la drogue, dans la boisson, qui ont été infidèles. Je rentre pas dans tous les détails, j'explique les grandes lignes. Si elle se sépare, mais le plan de Dieu, c'est qu'elle demeure sans se marier puis qu'elle se réconcilie. Je connais des femmes qui ont été séparées puis même divorcées, sont devenues chrétiens. 10 ans après, ils attendent encore leur mari. Ils prient. Ils attendent encore que Dieu ramène de l'égarement son mari ou sa femme pour qu'ils reviennent dans les voies du Seigneur ou qu'ils viennent dans les voies du Seigneur pour retrouver son mari ou sa femme qui s'est égaré. C'est le plan original de Dieu, ça doit fonctionner comme ça. Il y a encore des clauses. 1 Corinthiens 7, 15, « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. » Parce que si une personne accepte le Seigneur, puis c'est un non-croyant, qui est marié avec la croyante ou le contraire, homme et femme, là. Puis que le non-croyant veut rien savoir de la chrétienté, puis il se sépare de la personne qui est croyante. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Fait que quand vous expliquez votre théologie, il faut voir à tous ces versets-là pour fitter vos décisions face à l'ensemble de ce qui est écrit. Matthieu 5, 32, Jésus parle encore. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, il expose à devenir adultère. Ça veut dire, si je divorce ma femme, je l'expose à devenir un adultère. Parce qu'elle, elle va vouloir se remarier. Moi, je l'ai divorcée sans aucune bonne raison de la divorcer. Je la divorce, elle se remarie, puis je l'ai exposée à devenir un adultère. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je divorce ma femme. Je dois vivre de façon à garder ma femme, qu'elle demeure dans la voie de Dieu sans qu'elle tombe dans l'adultère. Mais il dit, sauf pour l'infidélité. Parce que si je la divorce à cause de l'infidélité, à cause qu'elle était infidèle, c'est elle qui porte déjà l'adultère. Je ne l'expose pas à le devenir, elle l'est déjà. Puis si moi, j'épouse une femme qui est répudiée, mettons, la femme a été répudiée par son mari, je commets un adultère. Fait que quand je me marie, je dois veiller à ce que je me marie quelqu'un qui n'a pas été répudié. Quelqu'un qui ne porte pas l'adultère. Il y a un autre verset qui nous aide à approfondir cette idée-là que Jésus a dit dans Matthieu 19, 9. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Là, c'est en train de nous dire que si je répudie ma femme, puis j'en épouse un autre, je commets un adultère, sauf pour l'infidélité. Ça veut dire, si ma femme a été infidèle, puis je la divorce, puis j'en épouse un autre, je ne suis pas en adultère. Parce que c'est elle qui porte l'adultère et qui a brisé mon mariage. J'ai le droit de me remarier, tandis qu'elle, en portant l'adultère, n'a pas le droit de se remarier. Parce qu'elle a été infidèle, c'est elle qui porte le brisement du mariage. Une personne qui a brisé son mariage devant Dieu n'a pas le droit de se remarier. Sinon, elle est adultère. C'est ce que la Bible nous dit. Si on veut accommoder, puis essayer d'arranger, ouais, mais... Puis là, on essaie d'étirer les textes pour essayer d'englober des gens qui n'auraient pas eu le droit de se marier. Puis là, ils se sont mariés quand même par entêtement. Jésus a déjà dit que c'était de l'adultère. Si on est dans une situation qu'on ne sait pas où ce qu'on en est rendu, il faut faire le point, aller consulter des pasteurs, parce qu'il y en a qui sont bien ouverts, puis ils marient tout le monde, peu importe leur état, s'ils ont déjà été divorcés, fait que c'est pas nécessairement ceux-là qu'il faut écouter, c'est ceux qui ont de l'air à s'enligner face à la parole de Dieu. Allez consulter pour savoir si vous avez le droit de vous remarier. Il y a des clauses. Pour savoir si vous faites partie de ces clauses-là. Sinon, touchez pas à cela. Même si vous dites, « Ah, mais je me sens seul. » Je le sais, vous vous sentez seul, mais c'est devenu votre combat. Lequel? Le dernier? Matthieu 19, 9. Autant qu'une personne qui n'a pas été délivrée de la sexualité et qui est seule, c'est son combat à se garder pur, puis d'attendre à ce que Dieu donne une conjointe. Mais autant qu'une personne qui est divorcée et qu'elle n'aura pas le droit de se remarier, dans les clauses, dans les conditions qu'elle n'a pas le droit de se marier, c'est son combat. Il faut qu'elle apprenne à vivre selon ce que Dieu a établi afin de ne pas devenir adultère. Est-ce que le mariage compte quand même avant, quand on n'était pas chrétien? Est-ce que Dieu a fait des clauses en disant, ben là, les mariages, je vous marie, mais vu que tu étais marié avant d'être chrétien ou après d'être chrétien? Non. Il n'y a rien qui nous dit cela. La Bible, elle nous dit juste, Dieu L'homme quitte son père et sa mère, les deux s'attachent ensemble pour former qu'une seule chair, puis Dieu a uni quelque chose pour la vie. Il n'a jamais dit en quoi que vous soyez chrétien ou non chrétien. Le mariage est valable avant comme après. Puis notre position devant Dieu, mariage, est valable avant et après. Savez-vous qu'on peut être... Là, on est rendu au quatrième point. Savez-vous qu'on peut être impudique dans notre habillement? Dieu a dit qu'il jugera les impudiques et les adultères. Savez-vous qu'on peut être impudique dans notre manière d'être habillé? Si on, autrement dit, qu'on peut s'habiller d'une manière qui a de l'air prostitué, qui a de l'air débauche, qui a de l'air provocant, qui a de l'air pour faire donner une occasion de chute aux autres de tomber dans le péché en nous regardant. La Bible a un verset pour cela. 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni de... Le point que je veux souligner dans ce verset-là, 1 Timothée 2:9, qu'il y a une manière de s'habiller qui est pudique, qui est le contraire de impudique. Quelle est l'idée du Seigneur dans ce verset-là? Mais on le comprend mieux en lisant d'autres passages, dans Romains 14, au verset 12. « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Qu'est-ce qu'on doit comprendre si on fait le lien avec ces deux versets-là? Il y a une manière de s'habiller que les femmes peuvent s'habiller d'une manière impudique. J'entends par là une manière qui serait une occasion de chute pour le frère qui est assis lui dans l'église puis qui a un problème avec cela. Si on est attiré sexuellement envers notre femme puis elle s'habille de façon à nous attirer, aucun problème. C'est permis, c'est dans le cadre du mariage. Mais quand on est en dehors de notre chambre, on rencontre d'autres personnes autour de nous autres. Il faut prendre garde à ne pas devenir une occasion de chute. Qu'est-ce que ça veut dire, une occasion de chute? Mais il y a deux points là-dedans. Là. À être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est une occasion de chuter. Le gars, lui, qui est tout seul, qui combat avec sa sexualité, puis vouer des gens, puis ça sera le malheur de voir ça dans l'Église, des femmes qui sont habillées, puis démontrent tout ce qui est caché, qui serait supposé d'être caché. Je parle pas de chandail, là, qui est normal, là, comme le monde que je vois ici, tout le monde sont habillés, cachés. Mais ça arrive qu'il y en a qui sont... Ils veulent volontairement ou involontairement dévoiler le comme j'ai déjà entendu, mettre en valeur les objets que Dieu leur a donnés. Jouez pas ça dans la Bible, jouez le contraire. Cachez-vous, gardez-vous pour votre mari. Soyez pas habillés d'une manière impudique. Si nous sommes une occasion de chute pour quelqu'un, on devient coupable devant Dieu, et Dieu va juger les impudiques dans leur habillement. Dieu veut qu'on apprenne à s'habiller pour cacher ce qu'on a. Un gars a des parties à cacher, puis une femme a des parties à cacher. C'est sûr que dans chaque culture, il y a des modes de vie. Moi, vous ne me verrez pas d'un camp de nudiste. Vous ne me verrez pas habillé non plus avec un speedo. Ni habillé en caleçon, je ne viendrai jamais me montrer à me promener en caleçon. Des culottes courtes, aucun problème. Je ne démontre rien. Puis la femme, il faut qu'elle apprenne que le bas, autant que le haut, ça attire les gars. Je ne sais pas s'il y a juste moi qui pense, pas qui pense, mais qui combat contre ça. Là. Mais moi, ça m'arrive de combattre contre ça. parce que le regard, il en démontre trop. Là, automatiquement, quand on jase, on se regarde, on croise. Puis là, les saints attirent les gars. Je suis extraterrestre? Y a-t-il juste moi qui est comme ça? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est normal que les femmes doivent se cacher. Ça fait partie de la pudeur. C'est un principe sain. On doit apprendre à s'habiller convenablement. Si vous allez à la plage, trouvez-vous un costume de bain qui montre rien. C'est pas à cause que tout le monde sont à moitié tout nu qu'il faut que je fasse comme eux. Un chrétien doit se démarquer par sa manière de vivre, sa manière d'être, puis de mettre un costume de bain décent, qui démontre pas. Ça peut arriver que ça moule un peu, mais des fois, il y en a qui ont un costume de bain avec de la dentelle ou qui ont comme des pantalons, une jupe par-dessus. Tu sais, il y a des manières de costume de bain qui démontrent rien. Faut que tu cherches vraiment pour comprendre plus. Tu sais. Faut apprendre à s'habiller. Parce que si on fait pas attention, puis que notre vie est toujours à être une occasion de chute pour tout le monde, entraîner le monde dans des débauches, Dieu a déjà dit dans Matthieu 13 qu'il enlèverait de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent des occasions de chute. Moi, je veux pas être une occasion de chute. Je veux pas être une occasion de chute, de scandale. Puis ça, il nous dit ça dans Matthieu 13, 41. Savez-vous aussi qu'à cause de l'impudicité puis de l'impureté, de l'adultère et etc., qu'à cause que notre conduite est charnelle à ce niveau-là, que ça peut arriver que certains chrétiens ils se sont attirés d'être exclus de la communion fraternelle dans l'Église, qu'ils ont été mis hors fraternité à cause de leur conduite impudique ou adultère ou voleur ou menteur. Quelqu'un qui veut pas se sanctifier puis qui vit charnellement, que l'Église a été obligée de prendre une décision puis de mettre en quarantaine un frère ou une sœur qui vit tout croche, puis on sera dans un sens comme obligé de le faire, pas juste pour cette personne-là, mais pour toutes les autres qui risquent de tomber dans l'Église, quelqu'un qui méprise la marche de la sanctification, ça nous le dit dans 1 Corinthiens 5-9. Paul nous dit, j'ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il faudra sortir du monde. Mais ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, qui est impudique, ou cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, voleur, de même pas manger qu'un tel homme. Ça, c'est un ordre du Seigneur. L'Église doit faire le ménage. Verset 12, ça nous dit, en effet, c'est qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Non. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. S'il y a des gens qui pratiquent l'impudicité dans leurs paroles, leurs pensées, leurs agissements, puis ils vont dans les prostituées, puis dans leur habillement, puis c'est de la débauche. Leur vie, c'est une vie débauchée. Ça peut arriver qu'une personne rentre dans l'Église, puis c'est la première fois qu'elle vient, elle ne comprend pas tous les principes, puis que là, elle vient pour entendre la parole du Seigneur. Je dis pas de mettre dehors les nouveaux qui se rajoutent, là. Là, on parle de quelqu'un qui se nomme frère, quelqu'un qui est dans l'Église, qui est supposé de comment avoir compris, là, puis que là, la Bible a dit, va et reprends-le. Après ça, va dire qu'un autre témoin s'il ne t'écoute pas. Après ça, dis-le à l'Église, puis s'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi un païen ou un publicain. Tu le retranches de l'Église. Mais il y a des processus, mais ce n'est pas sur les nouveaux, là. Sur quelqu'un qui est supposé avoir une maturité, puis comprendre les choses, puis qu'il a été averti, mais il y a une discipline qui est donnée par le Seigneur pour régler, pour ôter le méchant du milieu de vous. Des fois, on se demande, je dis pas ça pour ici, là, mais des fois, on se demande, comment se fait qu'il n'y a jamais d'onction du Saint-Esprit dans l'Église? Mais est-ce que tout le monde vit tout croche, puis que personne respecte les principes du Seigneur, puis tout le monde a des pensées adultères, puis ou des actions adultères, puis la débauche est dans l'Église, puis que personne ne se sanctifie, puis on se demande, Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu, on n'entend pas Dieu. Mais c'est pour ça qu'il faut ôter le méchant. Il faut se sanctifier, premièrement, dans notre propre vie. Puis après ça, dans l'Église. Puis là, on va invoquer le Seigneur. Puis il n'y a rien qui va attrister le Saint-Esprit. Puis on va vivre des moments glorieux dans la présence du Seigneur. Je conclue le message avec ce dernier verset. Ça se peut que vous ne le saviez pas. Ça se peut qu'il y a des choses que vous avez découvertes aujourd'hui avec le message que je vous ai apporté. C'est sûr que c'est des paroles qui sont dures, mais je ne veux pas vous laisser sur une parole dure, je veux vous laisser sur une parole de grâce. Dieu aime ses enfants, puis il prend pas plaisir à punir ses enfants, à les châtier, à leur serrer à vis parce qu'ils désobéissent. Dieu veut pas cela. Dieu veut qu'on réalise puis qu'on délaisse. Qu'on arrange nos vies pour être conformes. Ça se peut que tu as été un enfant prodigue, comme la parole le parle, l'enfant qui a pris les biens de son père, puis est parti, puis a couru vers la débauche, qui a abandonné le Seigneur, puis qui, là, il court dans la débauche, puis dans les prostituées, puis dans toutes les corruptions. Ça se peut qu'une personne s'éloigne du Seigneur, puis elle dit des choses qu'elle n'est pas supposée dire, elle pense aux choses qu'elle n'est pas supposée penser, elle agit dans les choses qu'elle n'est pas supposée d'agir. Puis là, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous vous sentez abattu, le Saint-Esprit vous met une conviction de péché. Ça, si vous sentez la conviction que vous êtes dans le péché, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Dieu vous appelle à vous repentir. Dieu vous appelle à revenir à lui. Dieu vous tend les bras. Il veut renouveler son alliance avec vous. Il veut vous pardonner. Il veut vous restaurer. Il veut vous remettre l'anneau au doigt. Il veut vous redonner une robe. Nouvelle robe qui symbolise, il vous pardonne puis il vous purifie parce que Jésus a tout accompli. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme prostituée qui était venue à lui? Va et ne pêche plus. Il a redonné encore sa chance de vivre parce que Dieu, il nous a donné un évangile de grâce, de pardon. On n'est pas là pour se condamner, on est là pour avancer ensemble face aux enseignements, puis on marche par la foi dans l'obéissance à ce qu'il nous est donné, parce qu'on aime le Seigneur, puis on veut marcher de manière qu'il soit agréable. On tombe, on demande pardon, et on est renouvelé, puis il nous accueille encore, puis il nous amène à lui. On va prier ensemble. En remettant nos vies dans les mains du Seigneur. Vous avez des combats, vous avez des luttes, vous avez besoin d'une femme, on va prier Dieu que vous ayez une femme. Vous avez besoin de maîtrise de votre corps, on va prier Dieu que vous ayez une maîtrise de votre corps. Vous avez besoin que des choses meurent dans votre corps, qu'on peut par l'Esprit faire mourir les actions du corps, on va prier que Dieu fasse mourir les actions de votre corps. Vous voulez mettre votre vie en règle avec Dieu, on va prier que Dieu vous donne encore répandre encore sa grâce sur vous, puis soyez pardonnés, purifiés, restaurés, délivrés, puis remplis de sa présence pour goûter sa paix et sa joie. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils qu'on s'approche ce matin. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Malgré que des fois, c'est une parole qui est dure, qui fait mal. Mais ta parole est vraie et est éternelle. C'est face à ta parole, Seigneur, qu'on veut mettre nos vies en règle devant toi, Seigneur. Premièrement, en avouant notre état, on te demande sincèrement pardon pour chaque fois qu'on a pensé des choses impures et qu'on est devenu adultère dans nos pensées. Chaque fois qu'on a prononcé des paroles pour faire des farces puis c'était des jokes sur la sexualité. Pardonne-nous et purifie-nous, Seigneur, là, toutes les fois qu'on est entraîné par des convoitises de notre corps, soit vers l'adultère, ou soit vers des prostituées, ou soit vers des convoitises de toutes sortes au niveau de péchés de toutes sortes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes pécheurs, nous le reconnaissons, et nous jugeons nous-mêmes, puis on te confesse notre état. Je te demande de nous pardonner et nous purifier par le sang de ton Fils, afin qu'on soit pur. Puis renouvelle-nous dans ta présence, renouvelle-nous en ta puissance, remplis-nous de ton Saint-Esprit et continue à nous donner cette paix et cette joie qui vient de toi. Puis je te remercie de ce que tu es en train de faire au milieu de nous pour nous purifier dans nos pensées, pour nous délivrer des liens du mal et des accès qu'on donne au diable. Puis libère de toute conséquence, tout accès qu'on a laissé passer au niveau par la sexualité. Brise les liens et les chaînes de l'ennemi, Seigneur. Et rends-nous libres qu'on puisse vivre dans ta présence jusqu'à ton retour. On remet nos ventres entre tes mains dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen, Seigneur.